Radio Kapi.
À la présentation, Gisèle Cage, bonjour.
Bonjour Jean Gandou, Kabongo, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal d'information sur Radio Kapi. Voici le principal titre de l'actualité. Jean-Pierre Lacroix en visite à Beni pour renforcer les efforts de paix et de stabilisation. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix échange avec les autorités locales et les communautés affectées. Il alerte sur les défis rencontrés par la MONUSCO dans les zones sous occupation armée. Lancement d'un vaste projet de reboisement sur l'axe Kassindi-Beni. La mutuelle pour le développement populaire prévoit la plantation de plus de 10 000 arbres pour lutter contre l'érosion et les glissements de terre en appui aux travaux de réhabilitation routière initiés par le gouvernement provincial. Invité du journal, Dr Aimé Eyane, député provincial du territoire d'Opala. Dans le cadre des vacances parlementaires, l'élu revient sur les défis du développement local et les faibles taux d'exécution du programme national de 145 territoires dans sa circonscription. À la une, ce jour, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix est en mission à Beni, capitale provisoire de la province du Nord Kivu. Au programme de son séjour, des rencontres avec les autorités locales, les représentants de la MONUSCO ainsi que des échanges avec les communautés affectées par l'insécurité persistante dans la région. Cette visite s'inscrit dans un contexte marqué par les efforts de stabilisation et de transition en cours dans l'est de la RDC. Éclairage avec Jean Ngan de Kabongo.
L'étape de Beni est la dernière et marque la fin de la visite de Jean-Pierre Lacroix en RDC, où il est arrivé depuis le 3 septembre dernier. Sur place, il a rencontré les responsables locaux de la MONUSCO, le gouverneur du Nord Kivu ainsi que les membres du comité provincial de sécurité. Par la suite, il a animé une conférence de presse. Avec les professionnels des médias, il est revenu sur les différentes rencontres qu'il a eues avec les autorités congolaises, entre autres la première ministre et le président de la République. Il a évoqué également les discussions avec les membres de l'opposition politique. Jean-Pierre Lacroix a aussi salué la collaboration entre les FRDC et les casques bleus qui s'est traduit notamment par les opérations conjointes pour la protection des civils. Il s'est aussi réjoui des processus de Washington et de Doha.
Sur le plan politique, encore une fois, il y a une responsabilité de notre côté à alerter sur le fait qu'il ne faut pas s'arrêter aux déclarations et aux résolutions. Il faut que l'effort diplomatique qui doit passer par toutes les mesures, incitations, j'hésite à utiliser le mot pression, mais après tout, pression aussi, tout ça doit être fait pour qu'il y ait ensuite des résultats concrets sur le terrain, diminution de la violence, avec, je crois, une importance toute particulière à accorder à la nécessité d'un cessez-le-feu, parce qu'il est difficile d'avancer ensuite vers la paix s'il n'y a pas de cessez-le-feu.
Notons que la dernière visite de Jean-Pierre Lacroix en République démocratique du Congo remonte au mois de mars dernier.
Lors de la conférence de presse qu'il a tenue à Beni, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des maintiens de la paix, Jean-Pierre Lacroix, s'est exprimé sur les nombreuses difficultés auxquelles fait face le personnel de la MONUSCO dans les zones encore sous occupation armée. Écoutons un extrait de son intervention sélectionnée par vous, par Jean Gandou Kabongo.
Nous avons dans la zone occupée actuellement par la M23 et les forces rwandaises des difficultés supplémentaires liées aux restrictions qui sont imposées à nos collègues de la MONUSCO, restrictions de liberté de mouvement, restrictions au titre de la fourniture de ce qui permet à nos collègues de subsister, fourniture d'eau, d'électricité, des pressions qui sont inacceptable et que nous devons à tout prix alléger des restrictions au niveau du passage de biens et de personnes à la frontière de Goma, Kisangani, etc., etc. Et donc notre intention, c'est de faire tout ce qui sera possible de faire pour lever ces restrictions. Nous appelons à la coopération de tous pour que cela se réalise. C'est une question que j'ai abordée évidemment avec les autorités congolaises qui m'ont indiqué qu'elles souhaitaient que nous restions dans toute la mesure du possible présents à Goma pour jouer le rôle que nous pouvons jouer sur place conformément à notre mandat.
Autre fait marquant de ce jour, à Kassindi Loubiria, la mutuelle pour le développement populaire lance une ambitieuse opération de reboisement le long du l'axe routier Kassindi Beni. Plus de 10 000 arbres seront plantés, des saules, des chênes et de peupliers, des essences reconnues pour leur rôle dans la lutte contre les glissements de terrain et l'érosion des sols. Ce projet environnemental vient en appui aux travaux de réhabilitation de cette route engagée par le gouvernement provincial dans une zone particulièrement vulnérable aux risques géologiques. Le coordonnateur de l'organisation Manix Mbavuga s'est confié à Marc Maroufimbo lors d'un entretien téléphonique.
Nous nous sommes fixés l'objectif de voir comment appuyer désormais les actions de développement de son excellence, monsieur le gouverneur militaire du Nord Kivu, dans les projets ou dans les activités d'assainissement et de reboisement, en fait de préserver une bonne image des infrastructures routières qui sont en pleine réhabilitation, partant de la cité frontalière de Kassindi en allant vers Beni. Vous allez comprendre que la cité frontalière de Kassindi, elle est juste une cité pilote, une cité stratégique qui représente la portée du pays. Quant à ça, notre organisation s'est fixée une fois l'objectif de voir comment appuyer ces actions dans des activités de sensibilisation et d'éveil de conscience communautaire dans le secteur de l'assainissement et autres. C'est pourquoi nous appelons la communauté à mettre en place un slogan, à dire combien de fois nous tous agissons tous ensemble pour combattre et éradiquer les déchets plastiques car notre avenir a dépend.
Dans la même veine, direction Goma, toujours dans la province du Nord Kivu, un projet de reboisement vient insuffler un nouvel élan à une ville longtemps éprouvée par les conflits armés et les retombées des poussières volcaniques. Cette initiative vise à restaurer le couvert végétal de la ville tout en contribuant à la lutte contre l'érosion des sols et les effets du changement climatique. Reportage Jean Gandou Kabongo.
La mobilisation est collective ce samedi, jour des travaux communautaires appelé Salongo. Nous sommes dans la rue Maganga qui mène vers l'église catholique Carmel au quartier Katindo. Des jeunes plantes sont mises en terre et Agapaum Fano William, habitant de Goma, donne ses impressions.
On est en train de planter les arbres le long de route. Le mont Goma, c'est déjà une colline verte. C'est planter des arbres. Et donc je trouve que c'est très important, c'est une très bonne initiative. Ça va jouer sur la santé parce que nous respirons, c'est grâce aux arbres. Avec ces fléaux qui frappent la terre, des réchauffements climatiques, c'est plus on est en train de couper des arbres, plus on met en danger l'humain. Je trouve que ça serait important que ces projets puissent être soutenus pour que nous puissions avoir l'air frais et que nous puissions avoir une vie aisée. Ou quand il fait chaud ailleurs, qu'il y a un arbre où on peut aller s'abriter du soleil.
Chaque habitant est appelé à arroser et à entretenir les plantes mises en terre devant sa parcelle pour la réussite de ce reboisement qui a pour finalité redonner de l'éclat à la ville touristique de Goma.
Dans le reste de l'actualité, la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo est confrontée à une recrudescence de l'insécurité ces derniers temps. Le crépitement d'armes à feu, les cas de vol à main armée et les actes de violence, y compris de meurtres, sont rapportés quasi quotidiennement. Dans la soirée du jeudi à vendredi, entre 19h et 20h, un prêtre de l'église catholique a été violemment agressé par des individus armés non identifiés. Grièvement blessé à la cuisse, il a été admis dans une structure sanitaire local pour recevoir des soins appropriés. La population boyomaise vit désormais dans une inquiétude permanente face à une situation sécuritaire de plus en plus préoccupante. Les explications avec Jacques Mokonkole.
L'abbé Jean-Paul Yailo, curé de la paroisse Saint-Jean de Loa en territoire d'Ubundu, a été attaqué aux environs de la radio-télévision Canal Orient. Les assaillants armés de fusils lui ont ravi son sac contenant de l'argent, un ordinateur portable et des téléphones. Avant de s'en aller, ils lui ont tiré des balles à la cuisse et l'ont abandonné gisant dans le sang. Cependant, ils n'ont pas emporté son engin, eux-mêmes roulant à bord d'une moto et d'une jeep, selon des témoins. Cet acte vient s'ajouter à bien d'autres commis ces derniers temps dans la ville. Le 29 août dernier, un cambi a succombé à ses blessures le lendemain de son attaque par des hommes armés vers 20h dans son shop. Au regard de la récurrence des actes de criminalité, le cadre de concertation de la société civile a publié un communiqué fustigeant l'insécurité tant dans la ville qu'à l'intérieur de la province. Alphonse Longongo appelle les autorités à assumer leurs responsabilités afin de sécuriser la population et ses biens. Tout en affichant son regret, le maire de la ville se dit interpellé avec tous les services de sécurité. Ils doivent changer de méthode afin de démanteler ce réseau d'infiltrés, dit-il. En même temps, il exhorte la population à la vigilance tous azimuts. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au sud Kivu, dans le territoire de Walungu, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer une mesure prise par le responsable du mouvement M23 interdisant l'enregistrement des mariages civils dans les entités coutumières. D'après nos sources, ces rebelles exigent que tous les agents de l'état civil redirigent les couples vers le chef-lieu du territoire Walungu Centre pour toute formalité liée au mariage. Cette décision est jugée inappropriée par de nombreux acteurs locaux. La députée provinciale Béatrice Nanvano estime qu'elle poursuit des objectifs essentiellement financiers. Elle s'interroge également sur la faisabilité de cette directive, notamment pour les couples vivant dans des zones enclavées où l'accès à Walungu Centre demeure difficile. Elle s'est exprimée à ce sujet au micro de Radio Okapi.
Ils arrivent à ignorer même le pouvoir coutumier qui, sans doute, avait la possibilité d'inscrire le mariage pour ceux qui se marient civilement. Cela permettait que de nombreux couples vivaient légalement leur union conjugale. Il est étonnant de trouver que ceux qui se disent libérateurs ne songent plus à cette décentralisation. Vraiment, c'est très étonnant. Ils commencent à exiger que dans les territoires qu'ils occupent, tout le monde parte faire inscrire leur mariage au bureau du territoire et non plus dans les postes du groupement. Nous demandons aux autorités de Kinshasa de vouloir sauver cette population dans la guerre. La population souffre à l'est de la RDC. Nous vivons de la misère à l'est de la RDC.
Pour rappel, en RDC, les officiers de l'état civil sont principalement les bourgmestres, les maires des villes et les administrateurs des territoires ruraux. Ces autorités peuvent également désigner les commis à l'état civil pour les assister dans l'exercice de leurs fonctions. À Lubumbashi, la police nationale a interpellé 145 personnes lors d'une opération de bouclage menée dans la nuit de vendredi à samedi. L'intervention s'est déroulée dans le quartier Tchassansa, commune de Lubumbashi, ainsi que Chamilemba et Congo, commune de Kampemba. Selon les autorités policières, les personnes arrêtées sont soupçonnées d'implication dans diverses activités criminelles. L'opération a permis la saisie de plusieurs armes blanches. Parmi les interpellés figurent également des individus accusés de produire des saucissons à base de viande, des chiens et de chats, ainsi que des fabricants de boissons fortement alcoolisées. Cette opération a été supervisée par le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba. Nord Kivu, la radio communautaire de Walikale RCWA qui émettait sur la fréquence 106.0 FM est à l'arrêt depuis mars dernier, coïncidant avec l'occupation du centre de Walikale par le rebelle du M23. Selon son directeur Augustin Mboula Yabili, l'ensemble du matériel de diffusion a été détruit ou emporté, tandis que le meuble ont été utilisés comme bois de chauffage par les combattants. Aujourd'hui, la RCWA fait face à de nombreux défis pour relancer ses activités dans cette région enclavée. Son responsable lance un appel pressant aux organisations, aux partenaires et aux personnes de bonne volonté pour soutenir la reprise de cette radio qui reste un outil essentiel d'information pour les communautés locales.
Actuellement, il y a une crise de l'information au niveau de Walikale parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui sécuritaire déplorable. Les gens ont besoin en tout cas des informations à temps réel. On a du mal à informer la population parce que la radio n'émet plus depuis mars. Et puis aujourd'hui, il y a un problème vraiment avec la sécurité qui se vit dans l'est de la RDC. Les gens, en tout cas, ont mal à accéder à des informations. Et c'est ce que nous craignons, parce que les gens, s'ils sont informés, peuvent bien se comporter. Ils savent ce qui se passe dans leur pays, ce qui se passe dans la province. Ils savent ce qui se passe aux alentours des endroits où ils vivent. Alors, nous avons ce problème-là, un défi, en tout cas, pour le territoire de Walikale en information. C'est pourquoi nous sommes en train de demander aux personnes de bonne volonté pour secourir cette radio, pour assister en matériel cette radio, pour qu'elle puisse encore rétablir son signal et que les gens puissent être informés.
Actualité internationale.
2 millions d'enfants risquent d'être privés d'école d'ici fin 2026 en raison d'une baisse significative de l'aide internationale à l'éducation. Selon l'UNICEF, l'aide publique au développement dans ces secteurs pourrait chuter de 3,2 milliards de dollars, soit une baisse de 24% par rapport à 2023. Près de 80% de cette réduction proviendrait des coupes annoncées par les États-Unis, l'Allemagne et la France. Si elle se concrétise, 6 millions d'enfants supplémentaires pourraient être déscolarisés, dont 30% dans des contextes humanitaires. La directrice générale de l'UNICEF, Catherine Roussel, rappelle que chaque dollar retiré à l'éducation compromet l'avenir des enfants. L'agence estime que le nombre total d'enfants non scolarisés pourrait atteindre 278 millions, soit l'équivalent de vider toute l'école primaire d'Allemagne et d'Italie.
L'invité.
Dans les territoires d'Opala, à plus de 260 km au sud-ouest de Kisangani, les infrastructures peinent à se développer. Le programme national de développement de 145 territoires n'y progresse que timidement, avec un taux de réalisation estimé à environ 30% selon le constat du député provincial Dr Aimé Eyane, de retour dans sa circonscription dans le cadre des vacances parlementaires. Pour en savoir davantage sur cette situation, nous le recevons dans ce journal. Il s'entretient avec Jacques Mokonkole.
Docteur Aimé Eyane, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous revenez de votre circonscription électorale d'Opala. Quels sont les grands problèmes auxquels la population de cette entité fait face?
Les principales difficultés, c'est notamment le problème de route. On a un problème d'inaccessibilité par voie routière. Et là, heureusement que le président de la République a écouté nos plaidoyers. Il a autoriser le financement de la route nationale numéro 7 et qui va de Kisangani à Otala en passant par Opala. Et donc ça, c'est vraiment le principal facteur qui fait que Opala ne sait pas se développer, parce que il n'y a pas de route.
Qu'en est-il d'autres infrastructures de base?
L'accès aux soins reste un sérieux problème. Il n'y a pas de centre de santé bien construit, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de médicaments au niveau des centres de santé. Et ça fait que quand une population n'est pas en bonne santé, elle ne sait pas bien produire, elle ne sait pas bien travailler. Mais les défis sont énormes et je ne peux pas m'étaler sur tout.
Par rapport à cette route d'Opala, est-ce qu'elle peut être rentable au cas où elle serait réhabilitée?
Mais vous savez que Opala, c'est parmi les territoires greniers de cette province. C'est nous qui produisons du riz, chez nous, du manioc, et qui est consommé ici. Et si vous allez sur les marchés ici, la plupart des mamans demandent toujours les riz d'Opala. Donc nous sommes un peuple producteur et c'est une route d'ailleurs d'importance nationale, parce qu'elle va jusqu'à Kinshasa. Donc elle va aider également à désenclaver la Choapa qui est fortement enclavée.
Vous déplorez le manque d'infrastructures. Opala n'a-t-il pas bénéficié du programme de 145 territoires comme partout ailleurs?
Nous avons bénéficié dans le cadre du projet 145 territoires de quelques infrastructures, mais il faut dire que c'est réalisé à près de 30%. Et la plupart d'infrastructures n'ont même pas été construites. Les ciments ont été détournés par endroits et la plupart des infrastructures n'ont pas été construites. Ce que moi-même j'ai vu un centre de santé de la Lomami qui a été finalisé, le bureau administratif du territoire, ainsi que quelques centres de santé par endroit, comme à une école à Omongo, à près de 60 km, une autre école à 18 km à l'Etutu Simbele. Mais en tout cas, la plupart des projets sont soit inachevés, soit non réalisés.
Quelle serait la cause de cet état des choses?
Il faut dire que certains entrepreneurs qui avaient gagné les marchés, ils ne sont même pas arrivés sur le terrain, ils ont sous-traité des marchés à des tierces et les travaux n'avaient même pas été exécutés.
En tant que fils du terroir, qu'avez-vous fait pour soulager un tant soit peu la souffrance de vos électeurs?
Bon, messieurs les journalistes, moi en tant que député, il ne me revient pas de poser des actions comme si j'étais un exécutif. Donc, les gestes que posent les députés, C'est, on appelle ça les gestes de générosité. Donc c'est pour soulager tant soit peu la misère de ses compatriotes. C'est dans ce cadre-là que moi j'avais distribué près de 1000 tôles à 30 centres de santé pour que des centres de santé qui sont en pisé, qui aient des tôles, et j'ai donné également quelques presse-briques pour qu'on puisse quand même construire des bâtiments en matériaux durables.
De toutes les actions à mener dans l'urgence, quelles seraient selon vous les priorités?
Je vais me battre à ce que qu'on inscrive la réhabilitation des routes de dessertes agricoles dans le budget de la province et que qu'on puisse aussi renforcer l'autorité de l'État. Dans certains endroits, même secteur ou chefferie chez nous, il n'y a aucun policier. Soit que tu trouves un policier, mais il n'a pas d'arme, il n'a qu'une matraque. C'est un sérieux problème. Donc nous devons vraiment renforcer les plaidoyers pour qu'on puisse renforcer l'autorité de l'État et qu'on puisse réhabiliter les routes de dessertes agricoles. Au-delà du fait que les structures de santé n'ont pas de médicaments, on devra également les approvisionner en médicaments de qualité.
Docteur Aimé Eyane, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Docteur Aimé Eyane, député provincial de la Tchopo, s'exprimait sur les défis infrastructurels dans le territoire d'Opala dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site officiel www.radiocapi.net et nos réseaux sociaux. Très bon dimanche à toutes et à tous.